École normale supérieure, savoir en multimédia.
L'objet de mon exposé ce matin, c'est un travail que je termine de réviser avec Anouk Barberousse, que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui est un petit peu à contre-emploi ou à double emploi, c'est-à-dire que comme l'indiquait Paul Clavier avant moi, l'essentiel de mes recherches sont dans le domaine de la philosophie dite analytique. Et ce que je voudrais présenter aujourd'hui, c'est un travail qui, d'une certaine manière, oblige ou invite la philosophie analytique à reconsidérer un peu son histoire sur un problème qui est très débattu dans la philosophie de langue anglaise aujourd'hui, le problème du paradoxe Sorite. Alors, pour expliquer de quoi il s'agit, vous connaissez sans doute ce paradoxe du tas de blé. Donc on peut le présenter de la façon suivante. Un grain ne forme pas un tas. Et si une collection de n grains ne forme pas un tas, alors l'ajout, l'addition de un grain ne formera pas un tas non plus. Par conséquent, si vous raisonnez par induction, vous direz pour toute n, pour toute quantité, toute collection de n grains, cette collection ne forme pas un tas. Et en fait, ce paradoxe est très ancien. Donc un peu d'histoire, justement, le sorite, donc soros, qui veut dire le tas, nous vient de l'Antiquité. En fait, on l'attribue à Eubulide de Milet. Il est l'auteur d'une autre version de ce paradoxe, le paradoxe du chauve, qui dit que donc avec un seul cheveu sur la tête, on est chauve, peut-être zéro, qu'en ajoutant un cheveu à une tête qui donne une personne chauve, on aura à nouveau une personne chauve, et ainsi de suite. Donc, quel que soit le nombre de cheveux qu'on ait sur la tête, on serait chauve. En fait, ce paradoxe a peut-être une origine qui est discutée par les historiens de la philosophie antique, chez Zénon, mais je passe sur ce point. C'est important parce que le texte dont je vais parler l'attribue à Zénon, en réalité. C'est un paradoxe qui était discuté très amplement ensuite par les stoïciens, chez les sceptiques, et on peut dire que sa fortune dans la philosophie contemporaine démarre avec les pionniers de la logique contemporaine. Vous trouvez une remarque en passant sur laquelle je reviendrai chez Frege, dans l'idéographie. Peirce, dans une entrée très brève d'une page qui s'appelle Vagueness, ou Vague, en fait, du dictionnaire de philosophie psychologie de 1902, mentionne non pas le paradoxe, mais le problème du vague, donc la question de savoir où sont les frontières pour des prédicats comme chauve ou être un tas. Puis Russell écrit un article en 1923, Vagueness, qui est vraiment un article déjà assez substantiel. Et je crois que le sujet connaît un essor considérable à partir des années 30. Un long article de Max Black, sur lequel je reviendrai, qui propose une solution statistique au problème. Et on trouve une explosion de la littérature sur le sujet à partir des années 70 principalement, un peu avant, mais principalement dans les travaux de Kit Fine, qui sera l'un de nos invités cette année au département. David Lewis, qui est mort il y a une dizaine d'années, mais grand philosophe analytique du XXe siècle. Hans Kamp, linguiste, toujours vivant. Et aussi chez Timothy Williamson, le grand philosophe oxonien aujourd'hui, Crispin Wright, autre grande figure qui enseigne à Aberdeen, etc. Alors, cette histoire, pour vous donner un exemple, l'une des raisons qui font que je m'intéresse à l'histoire de ce problème, outre que j'y ai travaillé indépendamment, c'est la parution d'un ouvrage de Nicholas Smith qui s'appelle Vagueness and Degrees of Truth, donc qui défend l'idée, en fait, répandue depuis les années 70, que pour traiter de ce problème du vague, pour résoudre ce paradoxe du sorite, il faut introduire une notion de degré de vérité. Donc on a besoin, ça rejoint des questions qui étaient posées lors de l'exposé précédent, il faut introduire plus de notions de degré de vérité que le vrai et le faux. Il faut s'étendre au-delà de la logique bivalente. Et c'est la thèse que défend de façon très intéressante ce livre de Nicholas Smith, et d'une façon renouvelée aussi par rapport à ce qui est dit en logique floue depuis les années 60. Alors, pour donner un aperçu du problème, si vous regardez ce que dit Frege du problème, en 1879, donc dans l'idéographie, un traité sur lequel je reviendrai beaucoup dans le cours de logique que je donnerai ce semestre, Frege établit en une ligne un lien entre le principe d'induction, qui l'intéresse beaucoup, qu'il essaie de fonder, et la notion de propriété héréditaire dans une suite. Donc je ne détaille pas ce problème, mais grosso modo, il nous dit le principe d'induction s'applique bien en mathématiques et peut-être qu'il ne s'applique pas à des expressions comme être un tas parce que ces expressions sont indéterminées. Donc il y a de l'indétermination dans le langage et il n'y en a pas en mathématiques, en quelque sorte. Peirce, dans cette entrée très brève du dictionnaire de philosophie et psychologie de 1902, suggère que... Alors ne parle pas du problème du sorite à proprement parler, il parle du problème du vague. Donc le vague, c'est vraiment le flou, la question de savoir où vous mettez les frontières d'expressions comme chauve ou grand ou être un tas. Et lui suggère que ce problème pourrait amener à remettre en question les lois de la logique classique. Et enfin, Russell nous dit, voilà, le vague est une propriété de nos représentations mentales ou linguistiques et non pas une propriété des objets dans le monde eux-mêmes. Donc c'est une thèse très forte qui a une influence considérable dans la discussion du problème jusqu'à aujourd'hui. Et il introduit également le problème dit du vague d'ordre supérieur qui est de savoir, bon, s'il y a du flou, est-ce que ce flou lui-même n'est pas susceptible de flou, et ainsi de suite. Alors, la raison de cette diapo ici, c'est que j'ai présenté cet exposé plusieurs fois au cours du printemps à un auditoire anglophone ou international. Les gens m'ont d'ailleurs accusé d'être trop francophile pour mon exposé, parce qu'en quelque sorte, je donne l'histoire qu'on pourrait donner du problème à grands traits depuis la fin du 19e, telle que vous la trouvez dans les manuels de philosophie analytique. Et l'objet, en fait, de notre article, c'est un peu de faire apparaître une lacune dans cette histoire qui passe tout simplement par ici, en fait, par l'école normale, puisque Émile Borel, essentiellement un mathématicien avant tout, mais aussi un philosophe des probabilités, s'est intéressé au problème dans un article méconnu, bref, mais probablement le premier article le plus substantiel écrit sur le problème, en 1907. Je vous ai donné un extrait de l'article. L'article paraît dans la Revue du Mois, qui était créée par Borel et sa femme en 1905. Donc il est en quelque sorte auto-édité, et il s'intitule « Un paradoxe économique, le sophisme du tabulé et les vérités statistiques ». Et le but de notre propre travail sur cet article de Borel, c'est en quelque sorte de présenter à la communauté, je dirais analytique en général, un texte qui donne une perspective non seulement méconnue sur le problème, mais également qui nous semble rester pertinente, même à la lumière d'un siècle de littérature sur le sujet. Par ailleurs, c'est une théorie qui est ignorée, même de ceux qui auraient pu en être les héritiers les plus importants. C'est-à-dire, je parlais de Nicolas Smith, par exemple, et de la logique floue. Il y a chez Borel des idées très proches, tout à fait pionnières, et qui, en fait, n'ont jamais été récupérées par cette tradition. Donc elles ont été, en quelque sorte, réinventées indépendamment. Même si Borel a en fait inclus, comme il le faisait pour beaucoup de ses articles, il les a inclus dans son maître ouvrage, Le Hasard, qui est paru en 1914, mais qui est aujourd'hui épuisé. Canouc Barberousse et moi-même avons l'intention de rééditer. Donc par ailleurs, il nous semble intéressant de comparer en fait l'approche de Borel à des approches plus récentes. Donc voici Émile Borel, longue carrière, qui s'est illustré, si vous ne le connaissez pas, de différentes manières, dans différents domaines. Donc Borel, du point de vue de ses contributions scientifiques, a été un pionnier dans la théorie des ensembles. Il a correspondu avec Cantor, notamment. Un pionnier en théorie de la mesure, un pionnier en théorie des probabilités, même en théorie des jeux. Donc il est discuté même parmi les économistes. Et une figure engagée politiquement, vous ne le savez peut-être pas, mais il a été décoré durant la Grande Guerre, après la Seconde Guerre. Il a été ministre, directeur de cette école, député, etc. Et donc, ses contributions philosophiques, c'est essentiellement sur les fondements des probabilités. Le contexte historique, j'en ai parlé, c'est la Revue du Mois. Mais si vous fouillez un peu, vous vous rendez compte qu'en France, à la fin du 19e siècle, paraît dans la Revue de métaphysique et de morale, notamment, un certain nombre d'articles autour des paradoxes de Zénon. Et vous le savez sans doute tout de même indirectement, puisque Bergson s'y est intéressé. Il y a trois contemporains importants de Borel qui sont Renouvier, Bergson et Poincaré. Alors je voudrais juste vous donner trois citations. La première m'intéresse particulièrement, c'est Laurent Fédy qui nous a mis sur la piste de cette citation. C'est dans le traité de logique générale et logique formelle de Renouvier, une discussion d'un argument de Spencer qui ne nous intéresse pas directement. Mais Renouvier y répond en disant « Mon argument n'a que l'apparence de l'argument célèbre du tas, autrement dit du chauve, lequel passe à bon droit pour sophistique. Ce qui fait le sophisme, et vous voyez l'expression que réutilise Borel dans le titre de son article, c'est l'idée qu'un tas, comparativement à un nombre de grains de blé, par exemple, ou qu'une tête chauve, comparativement à un nombre de cheveux fixes, sont des idées vagues, qui, de leur nature, excluent la précision numérique. De là vient que demander combien de grains ou de cheveux en plus ou en moins font ou ne font pas le tas ou la calvitie, c'est demander quel nombre déterminé d'objets il faut pour constituer un total, dont l'idée répond à un nombre indéterminé. La question est donc absurde. Alors, point très intéressant, c'est que le terme de vague, là aussi, question qui m'est souvent posée, comment est-ce qu'on traduit vagueness en français ? Donc, la réponse est chez Renouvier, d'accord ? On traduit plutôt vague en vagueness en anglais. C'est là qu'on m'accuse de francophilie, évidemment. Et donc, le premier point important qui intervient, c'est cette notion qui a un lien assez fort entre l'indétermination sémantique et le vague. Alors, il y a une deuxième notion qui est intéressante. Dans l'évolution créatrice, qui paraît en 1907, donc exactement l'année de la parution de ce petit texte de Borel, Bergson discute, et je pense que beaucoup d'entre vous le savent mieux que moi, la notion de, disons, plusieurs des paradoxes de Zénon, et notamment il essaie d'appliquer à la résolution de ces paradoxes son idée que l'esprit humain, en quelque sorte, discrétise des processus continus, et cette discrétisation, en fait, conduit au paradoxe. Donc, il dit, par exemple, que l'enfant devienne adolescent, puis homme mûr, enfin vieillard, toutes ces expressions sont des termes vagues, cela se comprend quand on considère que l'évolution vitale est ici la réalité même. Enfance, adolescence, maturité, vieillesse sont de simples vues de l'esprit, des arrêts possibles imaginés pour nous, du dehors, le long de la continuité d'un progrès. Et je mets en avant cette citation parce qu'en fait, Borel a écrit une recension du livre de Bergson en 1907, et Bergson a d'ailleurs répondu, et Bergson a répondu à la réponse de Borel a répondu à la réponse de Bergson. Borel étant critique en réalité de critiquant Bergson de la façon suivante, il l'accusait en quelque sorte de méconnaître l'importance qu'avait pour les mathématiciens contemporains la notion d'intuition géométrique et de mouvement. Donc querelle intéressante, je m'étends pas là-dessus. Mais ceci pour dire que la notion de continuité, qui a un lien, je pense, pour vous, assez intuitif avec les problèmes du vague, n'est pas en réalité le cœur de la solution même de Borel. Elle est proche, mais ça n'est pas le cœur de sa solution. Et enfin, il y a un troisième contemporain qui est Poincaré, qui a même été un des directeurs, en fait, le directeur de la thèse de Borel, ou l'un des membres de son jury en tout cas, qui s'intéresse, de même que Bergson à l'époque, à la psychophysique et aux problèmes de Fechner, et de savoir comment on mesure les sensations. Et dans un texte de Poincaré sur le continu mathématique, on trouve cette citation. Donc on a observé qu'un poids de 10 grammes, un poids de 11 grammes produisent des sensations identiques. Mais le poids B de 11 grammes ne peut pas non plus être distingué d'un poids C de 12 grammes. En revanche, A et C peuvent être distingués l'un de l'autre. Donc on a une formule qui est que A égale B, B égale C, et pourtant A est strictement inférieur à C. Cette formule pour Poincaré peut être regardée comme la formule du continu physique, et il nous dit qu'il y a, avec le principe de contradiction, un désaccord intolérable. C'est la nécessité de le faire cesser qui nous a contraints à inventer le continu mathématique. Et là aussi, point très intéressant du point de vue de l'histoire des idées, c'est que Borel publie en 1908 un court article sur ce qu'il appelle la méthode des majorités, dans lequel il revient en fait sur ce problème à la fois tel que discuté par Poincaré et tel que proposé par Fechner. Donc il y a une discussion de la psychophysique chez Borel. Et ce point est intéressant et je ne le développerai pas ici parce qu'en fait, dans cette notion de non-transitivité, on trouve une des sources du vague, du problème du vague, tel qu'elle est discutée encore aujourd'hui. Donc Borel, vous le voyez, connaît les textes de Poincaré, de Bergson, il les critique. Et sa principale originalité n'est pas tant le recours à la continuité pour présenter cette solution que à la notion de coefficient de probabilité. Donc ce qui va m'intéresser à partir d'ici, c'est de montrer quelle est la solution qu'on peut donner à ce paradoxe dans la perspective de Borel. Si j'ai le temps, je parlerai vraiment de la contribution de Borel, disons de l'utilisation qu'il fait de la théorie des probabilités de son temps. Et enfin, je montrerai en quoi sa théorie se distingue des théories courantes contemporaine. Donc l'étendue du vague, c'est très intéressant dans l'article, c'est que Borel distingue trois formes du vague. Le vague lexical, qui est le plus discuté aujourd'hui, par exemple une expression comme maison ou palais, quelle est la limite. Un vague pratique, en fait c'est le cœur de son texte, et c'est là que Borel s'inscrit dans une tradition qui est vraiment, qui inclut non seulement Poincaré, mais d'autres figures de la fin du 19e siècle, je pense à William James, à Peirce, donc une approche essentiellement pragmatique des questions théoriques. Ou des paradoxes. Par exemple, si vous êtes un éditeur, j'y reviendrai, est-ce que le manuscrit que vous recevez est acceptable en termes de taille ? Si vous êtes acheteur, est-ce que le ticket que vous venez d'acheter vaut la peine d'être acheté en fonction de son prix ? Si vous êtes un locataire, est-ce que la chambre que vous louez, par exemple, est assez grande en fonction de vos attentes, etc. Et enfin, il y a le vague économique, dont je n'aurai pas le temps de parler, mais qui est le point le plus surprenant du texte et le titre de l'article, c'est comment les variations du prix de gros pour une quantité donnée sont-elles répercutées sur le prix de détail ? Version du problème qui, à ma connaissance, n'a jamais été reproposée depuis un siècle. Alors, les singularités de l'approche de Borel, pour le dire très vite, vous avez tout d'abord un lien explicitement établi entre la notion de signification linguistique ou lexicale et celle d'usage linguistique, ce qui aurait une fortune indépendamment ensuite chez Wittgenstein dans une grande tradition de philosophie du langage. Une théorie statistique du vague comme phénomène d'imprécision, et enfin le paradoxe du tas vu comme un paradoxe économique. Donc je voudrais surtout m'intéresser au deuxième point, d'accord, la théorie statistique du vague comme un phénomène d'imprécision. Alors pour ça, je reviens sur le principe d'induction dont je parlais au début. Sa version abstraite a été proposée par Crispin Wright dans les années 70 sous la notion de principe de tolérance. Donc le principe de tolérance vous dit si un objet A a une propriété P, par exemple si A est grand, et si A et B sont relativement indiscernables, sous les aspects qui sont pertinents pour attribuer la propriété P, c'est ce qui est symbolisé ici, d'accord ? Donc, autrement dit, si A et B ont insensiblement la même taille, alors B aussi sera grand, d'accord ? C'est ce que dit le principe de tolérance ici. Le problème, c'est que si vous partez de la prémisse que, par exemple, Yannick Agnel, par exemple, est grand, notre champion de natation, il me semble qu'il est grand, et que vous construisez comme ça une série en fait, d'individus qui diffèrent insensiblement en taille de Yannick Agnel jusqu'à quelqu'un qui mesure 1m50, vous êtes forcé de conclure que la personne qui mesure 1m50 est grande, par continuité. Donc c'est vraiment ce que nous dit le principe d'induction, c'est ce que nous dit le principe de tolérance. Dans le cas du tas, ça nous dit si A est un tas, et si B est à peine moins nombreux que A, alors B est un tas. Alors, le dilemme est tel qu'il est présenté. Donc, il y a un dilemme, disons, logique, et il y a un dilemme tel que présenté par Borel. Donc, le dilemme logique, c'est que j'en ai exposé une des branches, c'est que si vous acceptez le principe de tolérance, à partir du moment où vous acceptez que quelqu'un d'effectivement grand, ou que vous accepteriez de dire grand est grand, alors toute personne plus petite sera grande. Mais d'un autre côté, si vous niez le principe de tolérance, logiquement, vous êtes contraint à dire que deux personnes dont les tailles diffèrent insensiblement sont telles que l'une est grande et l'autre n'est pas grande. Et ça répugne à l'intuition. Et Borel expose le problème dans ces termes. Donc lui, au début de son article, nous dit « Un grain de blé ne constitue pas un tas, ni deux grains, ni trois grains. Si 1 million de grains sont réunis, on s'accordera pour dire qu'ils forment un tas. Quelle est la limite exacte ? Devra-t-on dire que 2342 grains ne forment pas un tas, tandis que 2343 grains en forment un ? C'est manifestement ridicule. » Donc là, il considère la négation du principe de tolérance. Donc, première branche du dilemme, c'est que si vous niez le principe de tolérance, vous obtenez un résultat qui répugne vraiment à l'intuition. C'est qu'on doit faire une différence de statut logique entre des objets qui nous semblent devoir être traités de la même façon. Mais d'un autre côté, si vous acceptez le principe de tolérance, alors, comme je le disais, vous êtes acculé à la contradiction. Et en fait, Borel n'accepte pas non plus de valider le principe de tolérance, puisqu'il nous dit par exemple, donc il prend l'exemple économique... la personne qui veut acheter un ticket, il nous dit « Chaque personne prise individuellement est convaincue que ce n'est pas un sou de plus à payer qui l'aurait empêché de faire cette excursion et d'assister à ce spectacle. » Autrement dit, chacun est convaincu de la validité du principe de tolérance, mais il insiste sur le fait que l'illusion s'explique naturellement. Donc pour lui, c'est une illusion. Le principe de tolérance est illusoire. Donc comment est-ce qu'on va échapper au dilemme ? Et sa solution est donc très comparable à celle qui est employée beaucoup plus tard, à partir des années 60, essentiellement en logique floue. On veut éviter en quelque sorte les sauts du point de vue logique, mais autoriser les changements de catégorie. Et Borel nous dit donc les questions sont en fait mal posées si on exige une réponse par oui ou par non, donc une réponse bivalente. La vraie réponse est un coefficient de probabilité. Et il ajoute, dans tous les cas, ce sont les lois du calcul des probabilités qui régissent les variations. Il n'y a jamais de démarcation absolue, mais toujours dégradation insensible. Alors du point de vue de l'histoire des idées, la première citation n'est pas une idée originale. N'est plus original au sens où, donc si vous dites il va falloir des degrés de vérité entre le vrai et le faux pour accommoder le phénomène du vague, que ce soit par des degrés de vérité ou des coefficients, quelque chose comme un coefficient de probabilité, cette solution est, je crois, très naturelle à envisager. Ce qui est plus original, y compris un siècle après l'apparition de ce texte, qui reste original, c'est l'idée que l'emploi des lois du calcul des probabilités pourrait permettre de donner une solution fine au problème. Alors pour ça, je voudrais faire une comparaison d'abord entre la solution que propose, le traitement que propose Nick Smith du principe de tolérance. Donc d'après lui, le principe de tolérance est trop fort, mais on peut l'affaiblir d'une façon qui respecte nos intuitions, et qui consiste à dire, si vous prenez deux objets qui sont proches pour les aspects qui sont pertinents pour l'attribution d'un prédicat vague, P, comme être grand, alors les énoncés A est grand et B est grand, d'accord, P de A et P de B, doivent être proches en termes de leur degré de vérité. Donc, par exemple, si vous prenez A et B qui mesurent l'un 1m80 et l'autre 1m79, il se peut que l'énoncé A est grand et B est grand n'est pas exactement le même degré de vérité, mais il faut que ces degrés de vérité soient proches. Ça pourrait être par exemple 0,8 et 0,09, si vous voulez. Cette solution, en fait, me paraît intéressante. Néanmoins, pour ma part, j'ai toujours été très sceptique à l'égard de la notion même de degré de vérité. Je pense qu'une version probabiliste du même principe de proximité, ce que Nick appelle proximité, est justement implicite chez Borel, et consistera à dire que si A et B sont des objets qui sont proches par les aspects pertinents pour l'attribution d'un prédicat, alors ce ne sont pas les degrés de vérité qui sont proches, mais c'est vraiment la probabilité de juger que A et P et la probabilité de juger que B et P qui sont proches. Autrement dit, on parle de jugement et on ne parle plus de vérité. D'accord ? On parle vraiment de... On qualifie par les probabilités la notion de jugement et non pas la vérité à proprement parler. Bon, ça, c'est en quelque sorte l'esprit de cette solution au paradoxe. Maintenant, j'en viens au troisième point, le plus original, à mon avis, de ce texte, c'est l'emploi des lois des probabilités pour résoudre le problème. Donc, la deuxième catégorie de problèmes envisagée par Borel, c'est le vague pratique. Et voici l'exemple qu'il donne. Il dit « Un éditeur entreprend une collection d'ouvrages. Pour des raisons commerciales, ces ouvrages doivent être à peu près de la même dimension. 251 à 300 pages d'un type bien déterminé. Si donc on propose à l'éditeur un manuscrit devant donner 50 pages de ce type ou 500, c'est ce qu'on appellerait des cas clairs, d'accord, d'exclusion, il n'hésitera pas à le refuser. Mais la difficulté du tablé se présente pour les cas intermédiaires, ce qu'en anglais on appelle les cas frontières, borderline cases. Donc si, pour préciser, nous admettons que le type adopté comporte en moyenne 1000 caractères à la page, les dimensions extrêmes correspondent à un manuscrit de 250 001 à 300 000 caractères, faudra-t-il refuser un manuscrit qui renfermerait 250 000 ou 249 999, 249 998 ? C'est le problème du tas de blé. Alors voici quelle est la situation si vous la représentez exactement dans les termes de Smith. C'est-à-dire ce que critique Smith, c'est de dire, voilà, vous avez en abscisse le nombre de caractères du manuscrit, d'accord, par milliers, et en ordonnée, vous avez le degré d'acceptation pour le manuscrit. Et en fait, un employé idéal devrait précisément faire un saut, effectuer un saut, quand il passe de 250 000 caractères à 250 001 caractères. Donc, ce saut, en quelque sorte, c'est la négation du principe de tolérance. C'est-à-dire qu'il y a une petite différence, mais que cette petite différence est traitée, du point de vue sémantique, comme une grande différence. Et idem quand vous arrivez à la borne supérieure. Mais en fait, la manière dont Borel traite le problème, donc c'est, là, il y a un travail vraiment d'histoire des sciences que nous avons fait avec Anouk Barberousse, d'histoire des mathématiques, c'est que Borel nous dit, voilà, on va résoudre le problème en employant la loi des erreurs. Non, il dit la loi des écarts. Et en fait, cette loi des écarts, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la loi des erreurs ou la loi de Gauss, Laplace-Gauss, qui est en fait une loi employée, découverte au début du 19e siècle, en lien avec la théorie des erreurs accidentelles de mesure. Donc, quand vous effectuez une mesure, de façon répétée, vous obtenez différentes valeurs. Et en quelque sorte, il peut y avoir une erreur systématique sur votre appareil de mesure, mais il peut y avoir aussi des erreurs accidentelles. Et ce qu'on cherche, c'est à trouver la vraie valeur. Et on se demande donc quelle est la fluctuation, en fait, des valeurs que vous enregistrez autour de la vraie valeur supposée. Et la théorie qu'en ont faite Laplace puis Gauss a abouti au début du XXe siècle à un théorème qu'on appelle le théorème central limite. Alors, je ne vais pas m'étendre sur ce que dit le théorème dans les détails, mais en gros, ce à quoi il aboutit chez Borel, c'est qu'il nous dit, voilà, si l'employé chargé de l'évaluation est très habile, il y a une chance sur deux pour qu'un manuscrit dont le nombre de caractères serait exactement 250 000 soit accepté. Alors, il ne donne pas les détails, donc pourquoi est-ce qu'on va trouver une chance sur deux? Et la reconstruction que nous en proposons, en fait, c'est juste un peu de calcul, en fait, en appliquant le théorème central limite, c'est la chose suivante. C'est-à-dire, voilà, en fait, chaque caractère, donc vous avez un manuscrit, disons, qui a n caractères, et chaque caractère peut être mal évalué par l'employé. C'est-à-dire, il peut le compter pour 1, ou il peut le compter pour 2, ou pour 3, il peut aussi le compter pour 0, d'accord ? Éventuellement, il pourrait, disons, le compter pour moins 1 ou moins 2, d'accord ? Donc, on va supposer, pour notre exemple, qu'il compte chaque caractère pour 0, pour 1 ou pour 2, d'accord ? Donc, ça nous donne une variable, qu'on appelle une variable aléatoire. Et ce qui nous intéresse, c'est qu'étant donné, en fait, que vous avez 250 000 caractères, donc, pour chacune des valeurs de cette variable aléatoire, quand vous les additionnez, est-ce que vous allez vous trouver, quelle est la probabilité que vous avez de vous trouver entre les bornes qui sont fixés par Borel dans son exemple. Donc c'est ici ce que je représente. Quelle est la probabilité qu'un manuscrit de n caractères soit compris, soit compté comme étant entre 250 000 et 300 000 et en fait, c'est le problème que Borel est déjà en mesure de traiter dans son propre travail ou à partir des théories qui existaient déjà. En fait, le théorème central limite a été prouvé en toute généralité plus tard, une dizaine d'années plus tard ou une quinzaine d'années plus tard, au début des années 20. Alors, ce qui m'intéresse, c'est que si vous prenez un ordinateur et vous appliquez ce théorème central limite, il vous dit, en fait, que la valeur de cette somme, en fait, la probabilité que cette somme soit dans un certain intervalle, vous pouvez la trouver à l'aide d'une certaine fonction, qui est justement la fonction de Gauss, qui vous permet d'approximer cette valeur. Et donc, à l'aide d'un ordinateur, vous allez voir qu'on obtient exactement ce que dit Borel. C'est-à-dire que l'acceptation effective du manuscrit, sous ces hypothèses, vous donne une fonction qui est 10, comme ça, et telle que quand vous êtes sur les bornes, la probabilité, en fait, cette fois, d'acceptation du manuscrit est 1/2. Et quand vous êtes, par exemple, à 275 000 caractères, vous êtes vraiment proche de la certitude pratique pour le manuscrit d'être accepté. Donc, ce faisant, on évite, en fait, de traiter, vous voyez, différemment, les cas qui sont voisins des frontières. Bon, je passe sur ceci. Vous pouvez également le voir par simulation. Et le résultat auquel on aboutit, c'est donc, en fait, si vous essayez même de comparer en fait, ces deux schémas, c'est-à-dire l'acceptation effective et l'acceptation de principe, c'est-à-dire l'un des schémas nous donne un saut et des discontinuités et l'autre ne nous en donne pas, le point intéressant, c'est que en prenant le même calcul et en réduisant ce qu'on appelle la variance, donc l'imprécision de l'employé, eh bien, vous obtenez une fonction qui est de plus en plus proche de cette fonction en escalier qu'on avait au début. D'accord ? C'est-à-dire que à proximité des frontières, le passage est de plus en plus raide entre le refus et l'acceptation d'un manuscrit. Donc, en passant à la limite, vous allez bien trouver que l'employé qui serait parfaitement précis se comporterait comme on l'a décrit en premier lieu. Alors j'en viens à la discussion, en fait. Quelles sont les vertus de ce modèle eu égard au problème de départ? Donc si vous regardez le livre de Nicholas Smith, il identifie essentiellement deux problèmes dans les théories contemporaines du vague. Il y a un problème qu'il appelle le problème du saut, the jolt problem en anglais, et il y a un problème qu'il appelle le problème de la position, location problem, et l'idée est de savoir où est-ce qu'on établit la frontière. Donc le problème du saut, c'est l'idée que, comme je le disais, on traite deux individus qui sont à peu près indiscernables de façon très différente du point de vue sémantique. Le problème de la position, c'est qu'on suppose qu'il y a une valeur privilégiée pour tracer la frontière. Et en fait, l'avantage de la solution statistique de Borel, c'est qu'il n'y a pas de saut, peut-être dans la fonction telle que vous la voyez, il n'y a plus de saut du point de vue probabiliste. C'est-à-dire que les valeurs de probabilité sont proches pour des objets qui sont différents, mais proches dans leur différence. Et il n'y a pas non plus de position privilégiée, puisqu'en réalité, les probabilités ne vous disent que la chose suivante, c'est que si vous prenez deux objets et que vous avez catégorisé l'un comme grand, par exemple, Alors, le prochain peut toujours être catégorisé comme grand, mais ne doit pas l'être nécessairement. D'accord ? Maintenant, ce que ne nous dit pas le modèle borélien, c'est comment est-ce qu'on généraliserait cette théorie du vague comme imprécision à une théorie du vague lexical, au lexique. Je prends un prédicat comme grand. Comment est-ce qu'on traiterait, en fait, le vague inhérent à ce prédicat ? Alors, une manière de reconstruire l'extension qu'on pourrait donner de la théorie de Borel à un prédicat comme grand, ce serait de dire, voilà, en fait, toute attribution d'un prédicat vague est fonction de deux paramètres. D'une part, d'une certaine échelle de comparaison. Par exemple, vous comparez les tailles en centimètres, donc il faut fixer une unité. Et relativement à cette échelle, le premier paramètre, c'est la précision avec laquelle vous êtes capable d'évaluer les tailles. Donc, par exemple, quand je regarde Paul, je ne connais pas sa taille exacte au centimètre près, et donc j'en fais une estimation. D'accord ? Et le second paramètre, c'est le critère, c'est-à-dire où est-ce que je vais placer mon critère pour décider qu'un objet est grand ou n'est pas grand. Et c'est ce que j'appelle alpha ici. En fait, ce que dit le modèle de Borel, c'est exactement ça. C'est que, en supposant que, par exemple, que Paul mesure 1m80, je pourrais à nouveau traiter en fait, chaque centimètre. J'ai un évaluateur précis. Chaque centimètre, comme cette variable aléatoire, je regarde la somme. Et si j'ai fixé mon critère, par exemple, à 1m75, eh bien, dans certains cas, je serais tenté de conclure que Paul est grand et, en fonction de la valeur, justement, de cette somme. Mais l'objection qu'on peut faire à cette théorie, c'est que Borel manque, à mon avis, de distinguer deux types d'incertitudes relativement au phénomène du vague. La première forme d'incertitude, c'est ce que j'appellerais l'incertitude sur le stimulus. C'est quand vous voyez un objet, quel qu'il soit, donc quand j'aperçois Paul, je suis incertain sur sa taille. Donc la taille de Paul, le stimulus, me place dans l'incertitude. Mais dans l'exemple de Borel, la frontière est connue. C'est-à-dire que si, par exemple, vous considérez l'exemple du manuscrit, il y a bien des critères précis qui sont a priori, qui sont connus. Mais ce qui est inconnu, c'est la position relative du stimulus de l'objet relativement à ce critère. Maintenant, qu'en est-il des cas inverses dans lesquels le stimulus est connu ? Donc je connais, par exemple, on me donne avec précision la taille de Paul et on me demande de décider s'il est grand. Cette fois, il semble que c'est la frontière qui est inconnue et sur laquelle je suis dans l'incertitude. Donc vous pouvez connaître la taille d'une personne au millimètre près et néanmoins hésiter sur la question de savoir si cette personne est grande ou pas. Donc de ce point de vue, on pourrait dire qu'une objection assez massive à la théorie de Borel, ce serait de dire on réduit le phénomène du vague lexical à du vague pratique et en fait à de l'imprécision, alors qu'il y a quelque chose de plus fondamental dans cette notion d'incertitude sur la frontière. Alors Borel envisage très brièvement cette question dans le texte. Il dit, pour arriver que l'on ne se fixe pas de règles a priori, mais que l'on déduise la règle moyenne des faits eux-mêmes. Par exemple, lorsque l'on veut acheter un meuble, on n'a pas toujours une idée absolument arrêtée des dimensions que l'on désire. Cependant, il est certains modèles que l'on écartera sûrement comme trop petits, certains que l'on écartera sûrement comme trop grands. Si l'on voit beaucoup de modèles, que l'on note ceux dont les dimensions paraissent acceptables, on constatera que ces dimensions se répartissent autour d'une certaine moyenne suivant des lois déjà rappelées. Bon, il envisage donc le problème qui est que se passe-t-il quand vous n'avez pas de frontières, de critères a priori ? Mais il ne nous dit pas exactement comment on procède dans ces cas-là. Et ce que j'ajouterais, c'est qu'en réalité, si vous comparez la théorie borélienne aux théories courantes du vague, il y a essentiellement deux oppositions à établir sur le traitement à donner du vague. Donc vous avez deux familles de théories qui s'opposent. Ce ne sont pas les seules, hein, mais ce sont deux familles antagonistes. L'une, dont j'avais d'ailleurs parlé il y a un an, cette même journée de manière de faire, c'est le vague comme un phénomène épistémique. C'est l'idée que le vague est dû à une ignorance de frontières qui serait sous-jacente et qui existerait bel et bien. Donc, par exemple, pour Roy Sorenson ou Timothy Williamson ou Paul Horwich, il existe un nombre n de grains tel que si vous êtes au-delà de ce nombre, vous comptez comme un tas et en deçà, vous ne comptez pas comme un tas. Et à l'opposé, vous avez des théories qui sont plutôt d'inspiration sémantique, qui nous disent non, le vague, c'est avant tout un phénomène non pas d'ignorance, mais d'indétermination sémantique. Et donc, ça n'est pas qu'on manque de connaître une frontière existante, c'est qu'il y a absence de frontière. Et cette théorie est en fait sous-jacente, dans une certaine mesure, aux travaux de Kit Fine, dans les années 70. Il a revu le problème depuis, Camp, David Lewis, Hartree Field, etc. Et je crois qu'on peut dire, pour résumer, en fait, que la solution de Borel, l'esprit de sa solution, est anti-épistémiciste, c'est ce que disait la première citation, d'accord ? Ce serait ridicule de tracer une frontière unique, et pro-sémantique, ou pro-sémanticiste, si vous voulez, puisqu'en fait, Borel accepte, il reconnaît dans le texte également, la notion d'indétermination des définitions verbales. Néanmoins, donc, toute la difficulté, c'est que, pour appliquer sa théorie, il faut se donner une notion de critère de décision. Il faut se donner une frontière sous-jacente, sans quoi sa théorie ne peut pas, en fait, marcher du tout. Et donc, pour réconcilier, en fait, cette tension entre l'inspiration anti-épistémiciste de sa théorie et l'usage qu'il fait d'une notion de frontière, il me semble que le problème qu'on peut poser en toute généralité, c'est que faire de cette notion de règle de choix ou de critère qui préside à ce modèle du vague comme imprécision pour l'étendre à une analyse du vague comme phénomène sémantique d'indétermination. Et la réponse que je voudrais vous proposer, c'est qu'un critère, de mon point de vue, n'est pas une frontière sémantique. C'est-à-dire que vous pourriez très bien lire le texte de Borel, comme le ferait Williamson peut-être, et vous dire, voilà, il existe une frontière, comme dans le cas du manuscrit, et tout ce qu'on fait, c'est que simplement que on erre, en quelque sorte, autour de cette frontière, en manquant de la reconnaître. Je crois que ça n'est pas l'analyse de Borel. L'analyse de Borel, c'est de dire la notion même de frontière sémantique est seconde par rapport à la notion individuelle de critère de choix. Donc il faut d'abord regarder la décision sémantique avant de regarder la notion plus abstraite et peut-être plus idéalisée de frontière sémantique. Et l'aspect proprement pragmatique de cette théorie et de sa solution, c'est, je crois, de dire que la position de mon critère, lorsque par exemple je juge que Paul est grand ou qu'il n'est pas grand, selon le contexte, c'est que la position de mon critère va dépendre de la position que vous adoptez quand vous-même vous attribuez en fait de la grandeur à un individu. Donc une solution complète du problème obligerait en fait à traiter de la coordination entre des lexiques individuels différents. Et un traitement plus poussé de cette question nous amènerait finalement à une théorie que je serais tenté d'appeler internaliste de la signification, au sens où on suppose que chaque individu a son lexique, se fait une représentation approximative du lexique d'autrui, et que les individus, pour reprendre une expression de David Lewis dans son ouvrage Convention, que lui-même emprunte à Leibniz, les individus, du point de vue sémantique, sont des monades sans fenêtre, c'est-à-dire que il n'y a pas de transparence sémantique des représentations des uns pour les autres, mais nous essayons, en quelque sorte, de nous coordonner dans l'usage que nous faisons du langage. Et c'est en quelque sorte, l'attribution, la postérité que je serais tenté de donner à cette analyse cette analyse par Borel de la théorie, du paradoxe sorite. Je vous remercie.